France Info. France Info.
La loi sur le renseignement a été définitivement adoptée fin juin. Elle donne des moyens supplémentaires, moyens financiers, moyens humains aux différentes agences françaises du renseignement, mais également des libertés supplémentaires aux agents secrets. Alors comment travaillent-ils? Comment nous espionnent-ils parfois? Au micro France Info d'Estelle Faure, des CM1 de l'école Fourcroy de Paris, et pour leur répondre, un spécialiste du renseignement, Yvonique de Noël, l'auteur du livre « Comment devient-on espion ?» publié chez Nouveau Monde Éditions.
Est-ce que les agents secrets ont des gadgets? Par exemple, le pistolet?
Des lunettes à rayon X pour voir à travers les murs?
La montre, les bombes?
Il y avait Sophie et César.
Alors oui, il y a toujours eu des gadgets dans l'espionnage. Simplement, c'est beaucoup plus limité qu'on ne le croit et qu'on ne le voit. Ils n'ont pas des voitures qui volent ou pour l'instant, voir à travers les murs, c'est pas quelque chose de très courant. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait par exemple de l'encre sympathique pour pouvoir transmettre des messages secrets. Il y avait des petites caches dans les talons de chaussures pour pouvoir dissimuler des armes ou dissimuler des messages. Donc ça a toujours existé. Simplement, l'essentiel du métier d'espion, c'est pas les gadgets.
Et le permis de tuer comme 007 ?
Alors le permis de tuer, ça existe, mais c'est quand même extrêmement rare. En général, c'est le chef de l'État qui donne une autorisation d'élimination. Et ça peut être, par exemple, aller éliminer le patron d'un groupe terroriste à l'étranger qu'il est impossible de capturer ou d'arrêter par ailleurs.
Benjamin.
Est-ce que les agents secrets, ils espionnent que les méchants ou alors ils espionnent d'autres gens pour d'autres raisons?
Quand on cherche du renseignement, Benjamin, on va chercher le renseignement là où il se trouve. Donc la notion de méchant ou de gentil n'est pas forcément très opérante. On va essayer d'espionner les gens qui ont la bonne information que l'on recherche. Par ailleurs, aujourd'hui, de plus en plus, les technologies permettent de récupérer un maximum d'informations, de données, de communication, que ce soit par le téléphone, que ce soit par l'email, etc. Donc, en général, maintenant, on aspire les données que l'on trouve sur le réseau et ensuite, on va regarder ce dont on a besoin. Donc, malheureusement, on aspire beaucoup de données, y compris de gens comme toi et moi.
Est-ce que les agents secrets ils travaillent en groupe ou alors ils travaillent tout seuls ?
En général, les agents secrets travaillent en groupe. Une bonne mission, c'est une mission préparée très en amont et dans laquelle chacun a une tâche bien précise. James Bond qui se débrouille tout seul sur le terrain, qui va voler des plans secrets, puis qui ensuite fait sauter le repère du méchant, s'enfuit, etc. Tout ça, c'est du cinéma. Les vrais agents secrets, en général, ils ont une spécialité et ils ne font pas 36 choses à la fois.
Est-ce que les agences, elles font des trucs qu'elles n'ont pas le droit par rapport aux lois françaises?
En particulier, quand ils sont à l'étranger, non seulement ils ne respectent pas forcément la loi française, mais ils ne respectent pas non plus forcément la loi du pays dans lequel ils se trouvent. Si, par exemple, ils sont chargés, ce qui est rare, mais qui peut arriver, d'aller éliminer un chef terroriste, bah, par définition, ils vont enfreindre beaucoup de lois. Si on leur demande d'aller chercher une information qui se trouve cachée dans le coffre d'une ambassade, là aussi, ils vont enfreindre beaucoup de lois.
Est-ce qu'ils font des interrogations avec des gens qui savent des secrets pour avoir les informations?
Alors, interrogatoires.
Des interrogatoires, on en fait, c'est un travail de police, mais parfois on se trouve face à des gens qui sont eux-mêmes très très forts et qui donc, même si on les interroge pendant des dizaines d'heures, ne vont pas parler. Donc le travail d'un agent secret, ça peut être de manipuler la personne qui a des informations. Ça peut être par exemple mettre cette personne dans une position compromettante et menacer de révéler ce qu'elle ne veut pas que l'on sache à son sujet. On va utiliser tous les moyens qui permettent de faire parler cette personne.
Les enlèvements, la torture, ça existe aussi?
Ça n'est pas censé exister. On a vu que cela arrivait parfois, notamment aux États-Unis, avec les bases secrètes de la CIA qui ont fleuri dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, du Moyen-Orient. En général, la CIA, pour ne pas être accusée de torturer directement, a sous-traité ce travail à d'autres agences qui avaient des critères moins strict que les siens.
Yvonique de Noël, l'auteur du livre « Comment devient-on espion ?» chez Nouveau Monde Éditions. Autre univers très secret, celui de la chimie des sentiments, univers exploré par le dessin animé Vice Versa, sorti à la mi-juin. Pour explorer cette chimie des sentiments, au micro d'Estelle Faure des 5e du Collège Lucie et Raymond Aubrac de Paris, et pour leur répondre, Bernard Sablonnière, il est professeur de biochimie à la Faculté de médecine de Lille.
Est-ce que les sentiments, c'est chimique? Un peu comme de la drogue.
Tu as tout à fait raison, parce que dans le cerveau, il existe des clés chimiques, si tu veux, des espèces d'accélérateurs, comme la dopamine pour le désir, comme l'ocytocine pour l'attachement. Et ces molécules chimiques naturelles, hein, vont stimuler un certain nombre de circuits du cerveau pour orienter nos comportements, faire que d'un seul coup, on aura envie de rencontrer quelqu'un, etc., ou d'avoir du plaisir. Et effectivement, c'est un peu comme la drogue, parce que comme toute source de plaisir, eh bien, on peut faire de l'addiction, on peut avoir envie de recommencer, etc.
Comment on explique les changements physiques quand on est amoureux, comme par exemple le cœur qui bat vite, les mains moites et les papillons dans le ventre?
Les papillons dans le ventre.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle ressentir dans les tripes, hein, Gaspard. C'est-à-dire que, là encore, dans le cerveau, il y a des clés chimiques qui vont être libérées dans tout le corps et qui vont agir sur les organes et qui vont faire que tu dormiras plus parce que tu penseras qu'à elle. Tu n'auras plus d'appétit parce que tu auras l'estomac noué et puis ton cœur va s'accélérer. C'est ce qu'on appelle le ressenti corporel des émotions et c'est aussi le cerveau qui fait ça.
Abou Bakar.
Est-ce qu'il y a d'autres sentiments qui sont liés à l'amour, comme la peur, la joie, la colère?
Bien sûr. Tous ces sentiments, c'est l'expression de ce qu'on appelle le cerveau des émotions chez l'homme, qui est très très développé, qui est situé quelques centimètres derrière le front et qui fonctionne admirablement bien et qui nous permet d'exprimer différentes valences, effectivement, des émotions. Ça peut être une amitié profonde, ça peut être effectivement la colère, la peur, la joie, l'amour. C'est très compliqué.
Gaspard.
Est-ce que l'amour, c'est naturel ou c'est une invention d'aujourd'hui?
Les gens qui étudient les comportements humains ont regardé cela et ils se sont rendus compte que le comportement amoureux est identique, que ce soit dans les sociétés occidentales modernes comme la nôtre ou même dans des sociétés plus reculées de certaines régions du monde. Le comportement amoureux est le même, c'est vraiment les gènes humains qui ont façonné ce comportement amoureux il y a plusieurs centaines de milliers d'années déjà.
Donc c'est pas une invention d'aujourd'hui, Gaspard?
Absolument pas.
Est-ce qu'il y a avec les humains qui ressentent de l'amour ou les animaux aussi?
Alors ça c'est une bonne question, c'est impossible à démontrer parce que figure-toi, et tu le sais très bien, les animaux ne parlent pas. Or, pour exprimer ce qu'on ressent, il y a quelque chose de génial chez l'homme, c'est l'invention du langage. Et malheureusement, les animaux n'ont pas de langage.
Aristide.
Est-ce qu'on peut ne jamais tomber amoureux?
Ne jamais tomber amoureux.
Alors, c'est difficile de répondre à cette question, surtout sur le jamais. Mais ce que j'explique dans l'un de mes livres, c'est que si ton cerveau de la volonté met complètement en sourdine ton cerveau du désir, eh bien, tu peux très bien ne jamais tomber amoureux.
Quelle tristesse.
Est-ce que les filles sont plus sensibles que les garçons?
C'est vrai. Alors évidemment, l'explication que je vais donner n'est pas très romantique, mais les neurobiologistes pensent que ça provient de nos gènes. Et comme les filles savent que, instinctivement, dans leurs gènes, si elles démarrent une relation amoureuse, ça peut arriver jusqu'à une grossesse, eh bien, elles vont avoir un attachement plus fort pour le garçon que l'inverse, parce qu'elles vont avoir tendance à retenir ce garçon au cas où il y aurait une grossesse, parce que une grossesse, c'est un gros investissement et il vaut mieux que le garçon, le mari, le papa puissent être là souvent.
Aristide.
Est-ce que l'attirance sexuelle est liée à l'amour?
Eh bien non. L'attirance sexuelle, c'est un circuit du désir qui est différent de l'amour romantique ou de l'amour relationnel. Et effectivement, il y a des gens qui sont addicts au sexe et qui n'ont aucune attirance sentimentale envers la personne avec qui ils font l'amour.
Allez, on termine avec toi, Gaspard.
Si l'amour, ça se passe dans notre cerveau, est-ce qu'à l'aide d'une opération, on peut se désimmuniser contre l'amour?
Malheureusement, c'est pas possible. Le cerveau est tellement compliqué. Les seules techniques que les neurophysiologistes commencent à étudier, c'est des stimulations de certaines régions du cerveau, notamment pour activer la mémoire. Mais en tout cas, dans le comportement amoureux, il n'y a rien dans les médias.
Bernard Sablenière, professeur de biochimie à la Fac de médecine de Lille et l'auteur du livre « La chimie des sentiments » publié au printemps chez Odile Jacob.